Radio Campus 88.3 FM. Le moulin à parole. Restitution de l'atelier radiophonique et paroles partagées. Le moulin à parole.
Salut Lilou.
Salut, ça va?
Ça va et vous?
Ça va. Il y a un mois environ, un petit peu moins d'un mois, on est venu visiter les coulisses de Radio Campus et pour voir comment ça se passait, ainsi que faire plein d'interviews pour pouvoir constituer toute une émission.
Et aujourd'hui, on est là pour présenter l'émission AEPA.
Donc, tout d'abord, on a pu interviewer Daniel ainsi que Madame Durand. On a pu interviewer également trois étudiants de l'APT avec option animation en secteur sportif qui s'appelle AG2S. Et on a également des élèves ont pu interviewer la conseillère d'orientation psychologue du lycée Paul Gauguin.
Et tout de suite, nous écoutons l'interview des AG2S.
En fait, pouvez-vous vous présenter?
Moi, c'est Émilie et j'ai 18 ans. Moi, j'ai un bac SMG.
Moi, je m'appelle Maëlys et j'ai 20 ans.
Moi, j'ai un bac ST2S.
Je m'appelle Youssef et j'ai 18 ans aussi. Moi, j'ai un bac pro métallurgie.
Très bien, ok.
Pourquoi vous êtes venu ici?
Bah, en fait, moi j'étais en STAPS avant, sauf que j'ai pas réussi mon année, du coup j'ai fait une réorientation et la seule chose qui était dans le sport, bah, c'était ça, et du coup j'ai essayé, puis bah, ça m'a plu.
D'accord. Et toi, Youssef?
Moi, parce que je voulais voir le domaine du sport, parce que j'aime bien le sport, et c'était la meilleure chose pour voir des études dans le sport.
Et moi, c'était soit j'allais en STAPS, soit ici. Et du coup, j'ai choisi la mention complémentaire parce que je savais que STAPS, j'allais pas accrocher.
Tu peux nous dire que signifie l'acronyme AG2S?
AG2S, c'est animation et gestion dans le secteur sportif. Et bah, en fait, c'est une filière. Il y a la filière nautique et natation. Et il y a la filière APT, du coup, activité pour tous.
Quel métier vous voulez faire plus tard?
Moi, j'aimerais bien travailler avec les handicapés et les personnes âgées, toujours dans le domaine du sport.
Moi, éducateur sportif.
Moi, je sais pas encore, je vais voir, mais j'aimerais bien être dans le domaine du sport, toujours.
Avez-vous déjà eu des expériences dans l'animation?
Oui, moi j'ai déjà travaillé en centre de loisirs avant de venir dans cette formation-là.
Moi, j'ai juste fait l'année dernière du coaching avec mes filles de cette année, mais sinon pas plus que ça.
Moi, j'ai fait plusieurs colos, des camps de vacances, les étés et les hivers.
Est-ce que vous avez des stages à effectuer?
Tu veux, on a des stages, mais c'est tout au long de l'année. Et en gros, par semaine, on a 18 heures de stage à faire. Et sur tout au long de l'année, c'est...
684
heures. Et si on n'a pas fait ces 684 heures de stage, tu peux pas valider ta mention. Du coup, tu es obligé de faire toutes ces heures-là.
Et le mercredi, on est spécifiquement en centre aéré. Et le reste, on est dans une structure haute.
Les horaires du stage?
Alors, les horaires du mercredi, ils sont fixes. C'est-à-dire qu'on a 2 heures de réunion avec le centre de loisirs pour préparer toute la journée du mercredi. Et la journée du mercredi, on fait du 8-18. Et après, sur les 2 autres jours de la semaine, on peut avoir soit des horaires variables en fonction du sport qu'on fait, etc. Ou alors des horaires fixes, ça dépend.
Dans quel type de structure?
Du coup, moi, je suis dans mon club de volley à l'éco. Et je prends en charge les catégories baby volley, M15 filles, les départementales et les prénates, et j'ai trouvé ce stage parce que ça fait longtemps que je suis dans ce club et du coup ils m'ont pris.
Moi, c'est sur la journée du mercredi, donc on est tous obligatoirement, on doit faire du centre de loisirs parce que c'est en lien avec l'animation. Et après, moi je suis sur le hand et je suis aussi dans les cours collectifs.
Du coup, moi je suis juste au club de natation ici à l'éco. Et du coup, j'entraîne et j'assiste les coachs le lundi, mardi et jeudi.
Vos stages, vous les faites que dans des structures spécialisées dans le sport, ou vous pouvez le faire dans d'autres structures?
On peut le faire dans d'autres structures, mais c'est plus difficile parce que la base de notre mention complémentaire, c'est activité pour tous. Du coup, c'est vraiment l'aspect physique des jeux, des sports, l'handisport aussi. C'est les jeux collectifs où tout le monde peut jouer, comme beach volley, tous ces jeux-là.
Et aussi les sports collectifs. Voilà.
Et du coup, tout ça, c'est plus facile à adapter dans la mention complémentaire.
Ok. J'avais une autre question, c'est qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette mention complémentaire?
Moi, en soi, j'aimais pas trop les cours. Donc, la mention complémentaire, c'était un petit peu un mix des deux. Parce qu'on avait, là encore actuellement, jusqu'à la fin de l'année, on n'a que 2 jours de cours, donc le lundi et le mardi. Et sur tout le reste de la semaine, on est en stage. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça amène un côté professionnel aussi à la chose. Du coup, ça change un petit peu des cours normaux toute la semaine à l'école, quoi.
Ça fait l'expérience.
Voilà, c'est ça.
Et moi, c'est surtout le fait d'être dans le sport et dans le sport que j'aime. Donc, à la fin de l'année, on aura beaucoup plus d'expérience dans le sport. Et puis, ça va nous permettre de poursuivre.
Ok.
Est-ce que dans votre mention, vous occupez des enfants ou aussi des adultes?
Les deux. Tu peux t'occuper de tous.
Quels sont les inconvénients et les avantages de ce domaine?
Alors, les avantages, c'est qu'on n'a pas tant de cours que ça, mais c'est aussi un inconvénient parce qu'il y a beaucoup de personnes, justement, dans notre classe qui oublient qu'on a des cours à suivre, qu'on doit être à l'heure au cours, etc. Donc, ça, c'est un peu dans les deux cas, quoi.
Quelles sont les qualités à avoir pour faire cette mention complémentaire?
Les qualités, c'est l'organisation, parce qu'on n'a que 2 jours de cours, et plus tard, faut penser aux cours, aux stages qu'on a à faire, parce qu'il y a des responsabilités, on gère des enfants. Et par exemple, si les professeurs nous disent de prendre en charge aussi quelques entraînements, du coup, faut aussi gérer les entraînements et il faut être organisé pour ça.
Et je pense aussi qu'il y a l'adaptation, parce qu'il y a... Enfin, il peut y avoir beaucoup de soucis. Par exemple, nous, quand on devait vous assister à Charlemagne, on a eu des problèmes de bus, donc on a dû s'adapter. Et c'est pareil pour dans les stages. Par exemple, moi, il y a un soir, je suis arrivée et le gymnase, il pouvait pas être occupé, donc j'ai dû m'adapter à ce problème.
Quels sont les points communs avec la filière AEPA?
Le lien dans les deux, la mention et le bac AEPA, c'est ça. C'est l'étude de l'animation qu'il y a dedans. C'est okay. Ça se rapproche beaucoup.
J'ai une autre question, c'est quel métier on peut faire avec cette mention?
Alors, tu peux être dans l'animation, tu peux être dans le coaching sportif, tu peux être amené à travailler même en tant que pion dans un collège, dans un lycée, tout ce qui est vraiment en rapport avec l'animation et le domaine du sport. Après, okay. Dans le domaine du sport, tu peux pas non plus tout faire, tu peux pas être prof de sport, il faut d'autres diplômes pour ça.
Ok.
Est-ce qu'il y a un lien avec l'UFSS dans l'option APT?
Il y a un lien avec le handisport du Loiret. Et par exemple, ce matin, vous avez vu des personnes en situation de handicap faire des activités. Et si on nous le permet, avec certaines conditions, on peut faire le même travail que Ludovic, qui était en train de gérer les activités pour les handicapés.
Ok. Et toi, du coup, est-ce que tu comptes faire ça ou...
C'est la première fois que je suis avec des personnes en situation de handicap. Et je sais pas du tout si je veux faire ça plus tard. Mais ça a pas l'air de me déranger et j'en profite. C'est de l'expérience en plus.
Je sais pas si ça a été dit déjà comme question, mais pourquoi avoir choisi APT et pas, comme tu nous avais dit, natation ou nautique?
Alors, natation et nautique, je me suis renseigné, je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment sur l'aspect aquatique, par exemple, faire comment dire, des activités, du kayak, du canot et tout ça, c'est dans cette formation que tu apprends à avoir le strict nécessaire pour être certifié, pour être comment dire, validé par l'État pour pouvoir faire ces activités-là. Et je préfère activité pour tous parce que c'est plus en lien avec les sports que j'aime.
Ok.
Est-ce que quand vous faites vos périodes de formation en milieu professionnel, vous êtes obligé de le faire que dans un seul établissement ou vous pouvez par exemple de semaine en semaine changer d'établissement?
Ou de période en période, par exemple première période, deuxième et troisième?
Alors c'est sur toute l'année, c'est un stage sur toute l'année et du coup le centre de loisirs pour ceux qui habitent à Orléans, c'est le lycée qui passe par les centres de loisirs et la mairie parce que c'est plus facile à trouver. Et par exemple les stages, tout au long de l'année, en fait, s'il n'y a aucune période, c'est tout au long de l'année, on est noté en contrôle continu.
Ok.
Et en ce qui concerne les devoirs, c'est... parce que du coup, vous n'avez que 2 jours de cours dans la semaine, si j'ai bien compris. Du coup, la dose de devoirs, elle est plutôt raisonnable ou pas?
La dose de devoirs, au début, on n'a pas de devoirs, mais quand on a notre formation, enfin notre... notre PFMP, comme vous devez connaître, au niveau des stages dans un club ou dans une autre structure, et quand on a notre aussi stage le mercredi avec le centre de loisirs, ça commence à s'accumuler, c'est pour ça qu'il faut être organisé.
Est-ce que vous avez un rapport de stage à rendre, je pense pas toute l'année, mais d'une période où...
Alors, on a une fiche suivie, on note nos heures et ce qu'on a fait. Maintenant, c'est on note nos heures sur une feuille et ce qu'on a fait sur une autre feuille. Et plus tard, sur le rapport de stage à peu près normal, eh ben on va raconter notre évolution personnelle. Par exemple, au début, moi, j'entraînais pas du tout les enfants. Je regardais et j'aidais à ranger les matériels et maintenant je peux gérer un groupe complet. Du coup je dirais ça dans mon rapport de stage.
Qu'est-ce qu'il faut pour entre guillemets valider ces PFMP, c'est-à-dire il faut un nombre d'heures spécial ou
Il faut 684 heures pour valider la première partie du diplôme. C'est la partie animation et gestion. Et l'autre partie, du coup, c'est... avec des évaluations, comme des contrôles, tout ça. Voilà, c'est niveau court.
Et vous avez que deux... Comment on peut dire?
2 heures.
Deux trucs à valider dans la...
Ouais, les évaluations sont nommées U1 et U2. Et on a 3 évaluations à valider dans l'année qui font que ça fait deux parties du diplôme.
C'est en gros des gros examens, comme par exemple le bac, quelque chose comme ça, c'est des gros examens.
Il y a un seul examen du coup,
oui.
Sur les matières qu'on apprend, et l'autre du coup ça va être en contrôle continu sur... les professeurs qui vont nous suivre et les éducateurs et les tuteurs qui vont nous noter dessus.
Ça dure combien de temps durer cette option?
Ça dure une année. C'est un diplôme qu'on peut faire en un an.
Ok.
Il faut un âge requis pour avoir le diplôme ou même en dessous de 18 ans on peut l'avoir, enfin on peut le décrocher?
Non, il ne faut pas avoir un âge requis, c'est tant qu'on a le bac, on peut passer en post-bac.
Est-ce que tu conseilles aux gens de faire AG2S et l'option APT?
Option APT, ça dépend des gens. Et AG2S, c'est par exemple, si vous aimez votre formation, vous, pour le bac, voir un petit peu plus en une année ce que ça peut faire ou même ce que ça peut vous apporter. Je le conseille parce que, par exemple, il y a des personnes qui n'étaient pas studieuses et grâce à la mention complémentaire, ils commencent à être un peu plus studieux qu'avant. Et du coup, bah ouais, ça peut être une bonne chose.
Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis avec Lilou. Nous avons aussi fait cette interview avec Leïna et Mou qui ne sont pas présentes ici maintenant. Nous avons fait une interview avec Madame Durand, la responsable de Anime Orléans qui se situe à la place Sainte-Beuve à la source. Bonjour, je m'appelle Mathieu Rigaud, élève de EPA Animation Enfance et Personnes Âgées au lycée professionnel Paul Gauguin à la source. Nous sommes le mardi 29 novembre 2022. Nous allons interroger Madame Durand, la responsable de Anime Orléans qui se situe place Sainte-Beuve à la source, avec Lilou, Leïna et Oumou, élèves de 2EPA aussi.
Nous, la classe 2 à EPA, nous sommes allés au centre d'Anime Orléans pour participer à une exposition nommée Microfolie.
Alors, qu'est-ce qu'Anime Orléans ?
Bonjour, Anime Orléans, c'est une association de loi 1901.
Où cela se situe-t-il ?
Alors, c'est plus précisément 12 centres d'animation qui se situent sur tous les quartiers d'Orléans. Donc, du nord au sud, des Blossières jusqu'à la source. Et il y en a 3 à Orléans-la-Source.
À quoi consiste Anime Orléans ?
Anime Orléans, c'est 12 centres d'animation. Donc, c'est de l'animation pour à peu près tous les publics, de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. Et donc diverses animations, mais je crois que vous allez me poser d'autres questions plus précises.
Quelles sortes d'animations sont proposées ?
Du coup, comme je disais, donc c'est plein d'animations différentes pour toutes les tranches d'âge. Sur les 12 centres d'animation, on ne fonctionne pas tous exactement de la même façon. Il y a des centres qui ont des centres de loisirs pour les enfants qui sont âgés de 3 à 11 ans. Donc ça, il y en a 8 sur l'ensemble des structures. Il y a aussi 5 structures d'animation jeunesse pour les 12-17 ans. Et donc ça, c'est à peu près un par gros quartier. Donc secteur centre au niveau de la gare, l'Argonne, Blossière, La Source et Dauphine. Et ensuite, il y a des animations pour les familles, pour les adultes, des stages thématiques pour les personnes âgées. Il y a aussi des animations parents-enfants pour les tout-petits. Et après, on accueille aussi beaucoup d'associations qui viennent enrichir nos propositions d'animation. Donc, ça peut être des animations aussi sportives, culturelles, de loisirs et des animations éducatives.
Quelles études faire pour pouvoir y travailler ?
Il y a plein de métiers différents dans Anime Orléans. Il y a des animateurs centres de loisirs. Dans ce cas, il faut avoir le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le BAFA, ou encore le bac AEPA pour pouvoir être animateur chez nous. Il y a aussi des animateurs jeunesse, donc ça c'est des personnes qui sont en contrat à 35 heures, donc c'est de l'animation professionnelle. Je pense que votre baccalauréat peut convenir aussi pour ça, mais il faut aussi, on peut aussi demander un BPJEPS, brevet professionnel d'éducation jeunesse et sport, je crois. Éducation populaire et sport, donc le BPJEPS. Ensuite, pour être responsable d'animation, il faut avoir un niveau équivalent bac plus 2 ou peut-être bac plus 3 maintenant, donc soit un DUT carrière sociale, soit un BTS ou une licence professionnelle dans l'animation. Ensuite, pour être responsable d'établissement, il faut forcément un niveau bac plus 3, donc une licence pro ou un DESGEPS, donc diplôme d'état supérieur jeunesse et éducation populaire et sport. Je vais y arriver. Donc voilà, soit des diplômes dans l'éducation nationale, soit dans les filières plutôt éducation populaire et sport.
Quels sont les horaires proposés par Anime Orléans ?
Les horaires sont variables, mais les horaires classiques d'ouverture, ce serait à peu près du lundi après-midi. Toutes les structures sont fermées le lundi matin, mais du lundi après-midi jusqu'au vendredi à peu près, du mardi au vendredi de 9h à 18h on va dire, mais ça dépend aussi des animations, il peut y avoir des choses qui se font en soirée, des choses qu'on met en place du type de la Zumba, de la danse africaine, du yoga qui se font plutôt en soirée pour pouvoir accueillir les personnes qui travaillent en journée. Mais sinon on va dire classiquement du lundi au vendredi, et les structures où il y a de l'animation jeunesse plutôt du mardi au samedi avec des animations aussi le samedi pour les ados.
Combien d'activités sont réparties en fonction des âges ?
Alors, les structures ne fonctionnent pas toutes exactement pareilles. Ce qui est important dans nos centres sociaux, c'est vraiment de s'adapter au public des quartiers dans lesquels on est implanté. Donc, on fait à peu près tous les 4 ans un diagnostic pour savoir quels sont les besoins de la population du quartier où on est implanté, pour savoir quelles sont les envies, les besoins, et on essaye d'être toujours à l'écoute des besoins des adhérents qui viennent dans nos structures. Donc on n'a pas tous exactement les mêmes activités, mais comme je disais tout à l'heure, pour l'enfance, il y a le centre de loisirs, mais il peut y avoir aussi des activités de loisirs en dehors, du hip-hop, du futsal, du théâtre, de l'anglais, c'est varié en fonction des structures. Pour les ados, il y a des thématiques, des stages thématiques sur les vacances, découverte du sport, bien-être, c'est très varié ce qui peut être proposé sur les différentes structures. Pour les adultes, c'est plutôt des choses soit éducatives, sportives. Enfin, c'est très varié pour tous les publics. On essaye d'être varié sur les différentes propositions d'activités. Donc, c'est organisé différemment en fonction des structures. Et pareil, au niveau des horaires, c'est en fonction des structures, en fonction des habitants, des besoins, tout ça.
Pouvez-vous nous parler de votre travail de responsable au sein du centre ?
Mon travail de responsable, alors moi je suis responsable d'établissement, donc je m'occupe de coordonner tout ce qui se passe dans la structure. Je suis la référente des locaux, donc je m'occupe de tout ce qui est coordination au niveau de la gestion des locaux. Ça peut être le prêt des locaux, l'organisation des activités. Je suis aussi du coup la pilote de toutes les animations qui se font. C'est moi la coordinatrice de tout ce qui se fait au niveau animation, donc tout ce qui est ponctuel. De type événements, choses un peu extraordinaires, et puis tout ce qui est tout au long de l'année qui s'organise d'une année sur l'autre. C'est la personne qui pilote l'écriture du projet social, donc c'est un projet qui s'écrit pour 4 années, c'est ce que je disais tout à l'heure, où on diagnostique sur le terrain quels sont les besoins, quelle est la typologie des habitants du quartier où on intervient. Et donc cette écriture du projet social, elle se fait, je ne la fais pas seule, je la fais en partenariat avec des acteurs du terrain, parce qu'on ne peut pas faire les choses seules. Je ne peux pas être toute seule à me dire les gens à la source, ils ont besoin de ci, ça, ça. Donc je le fais avec des gens qui travaillent sur le quartier, de l'association Escale, de la Maison de la Réussite de la Source, des associations qui interviennent sur le quartier, Action Numérique, OP45. Et aussi avec des habitants. Donc moi, je suis la pilote de cette dynamique-là pour essayer de comprendre quels sont les besoins, faire le bilan de ce qui s'est passé les 4 dernières années pour voir qu'est-ce qu'on fait les 4 prochaines, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les besoins. Donc en faisant un diagnostic, aller voir les gens, leur demander ce qu'ils ont besoin, etc. Donc je suis la pilote de ça, globalement, c'est à peu près ça mon travail.
Quelles sont les qualités nécessaires pour faire un bon animateur ?
La patience, l'écoute, la créativité, l'envie, la disponibilité, le côté sociable, d'aimer être avec des gens. Peut-être que vous pouvez rajouter, si j'ai oublié des choses, vous avez peut-être une idée aussi. La curiosité. Dans le public, on a dit dynamisme, et c'est vrai que c'est hyper important. Je suis d'accord.
Peut-être le fait aussi d'être passionné par ce qu'on fait.
Ouais.
Aussi, tout à l'heure, vous avez parlé des activités qu'on pouvait faire, mais comment on peut s'inscrire pour y participer ?
très bonne question. Alors, pour s'inscrire, il faut remplir un dossier. Enfin, un dossier, une fiche d'inscription. Il faut aussi payer une adhésion. L'adhésion pour les moins de 26 ans, elle est à 2 euros. Pour les plus de 26 ans, elle est à 8 euros. Et ensuite, en fonction de l'activité, il y a des activités qui ne demandent pas de payer quelque chose en plus. Et d'autres activités, par contre, où il faut payer quelque chose en plus, un peu comme on paierait une licence de sport quelque part. Et ouais.
Ok, très bien.
Combien êtes-vous à travailler à Anime Orléans ?
Dans l'association, en global, on a à peu près 80 personnes équivalentes en plein. Donc 80 en moyenne, 80 dans les 12 structures. Et dans la structure où moi je suis, Anime Orléans, on est 3 personnes équivalentes en plein, plus des animateurs, une animatrice en plus qui est là toute l'année, mais qui travaille 20 heures par semaine en dehors des vacances et 35 heures par semaine sur les vacances. Ensuite, on a des animateurs en plus sur les vacances. On recrute régulièrement des animateurs renforts sur les vacances. Et puis, on accueille en moyenne aussi un voire deux stagiaires de vos formations ou d'autres formations qui sont aussi portées par la MFR sur à peu près tout au long de l'année. Plus des renforts, enfin des prestataires, on fait appel à des prestataires pour animer les certaines animations comme la Zumba, le yoga. Ça, c'est des choses que nous, on organise, on met en place, mais qu'on n'a pas les compétences de porter.
Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail ?
Moi, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est le contact avec les gens. Je suis ravie d'ailleurs d'être là aujourd'hui. Moi, j'aime vraiment pouvoir rencontrer des gens, parler avec les habitants, échanger et transmettre. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Aussi, quel parcours scolaire vous avez fait pour venir travailler ici ?
Alors, moi, j'ai un DUT carrière sociale. Alors, je crois que ça n'existe plus, les DUT, et que c'est devenu un BUT maintenant.
J'allais vous demander, c'est quoi ?
ça n'existe plus que depuis un an. Hein, mais en fait, c'est un niveau Bac plus 2, diplôme universitaire et technologique, niveau Bac plus 2. Maintenant, je crois que ça a été transformé en BUT, Bachelor Universitaire Technologique. Donc, c'est directement un niveau Bac plus 3. Donc, moi, j'ai le DUT plus une licence professionnelle intervention sociale. Et j'ai commencé avec le BAFA. En tant qu'animatrice, et ça m'a tellement plu que j'ai voulu me professionnaliser. Donc j'ai abandonné Anime Orléans. Alors à l'époque, ça s'appelait Azelco. Il n'y a pas si longtemps que ça, ça s'appelait Azelco. Oui, j'ai commencé à l'Azelco en tant qu'animatrice. Ensuite, j'ai quitté l'Azelco pour aller me former à Bordeaux puis à Toulouse sur ces diplômes-là. Et je suis revenue après en tant que responsable du centre de loisirs, puis maintenant responsable d'établissement. Et je suis à Anime Orléans Sainte-Beuve depuis 2013.
Merci de nous avoir écoutés. C'était Leïna, Lilou, Oumou et Mathieu. Et merci à Madame Durand pour votre participation.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Yanis, élève de seconde à EPA. Quels sont les inconvénients d'être animateur ?
Alors, ce n'est pas facile comme question, mais c'est une bonne question. Je pense que les inconvénients d'être dans l'animation, c'est les mêmes que tous les métiers où on travaille avec du monde, c'est qu'en fait, on est face à d'autres personnes qui peuvent avoir, alors qu'en ont pas toujours, hein, mais qui peuvent avoir des difficultés, nous confier aussi des problèmes, des soucis. Et parfois, on peut être un petit peu démunis, nous, en tant qu'animateurs, face à des problématiques que peuvent avoir certaines personnes. Donc ça, c'est des choses où il faut quand même, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans les qualités qu'il faut avoir, mais ça peut être une sorte de carapace qu'on se construit un petit peu, mais qu'on n'a pas forcément dès le début. Une sorte de carapace pour se protéger un petit peu aussi des soucis que peuvent avoir les personnes. Ça peut être un souci. Après, le domaine de l'animation, c'est un travail qui n'est peut-être pas suffisamment valorisé comme beaucoup d'autres travails, évidemment. Et financièrement, par exemple, je pense que c'est quand on commence en tant qu'animateur, il ne faut pas forcément y aller par envie de gagner beaucoup d'argent. Ça peut être un inconvénient. Si c'est une envie d'être ultra riche, bon, bah, peut-être on sera riche d'autres choses, mais pas forcément d'argent quand on est animateur. Mais on sera très riche de rencontres et d'expériences avec d'autres. Donc ouais, les inconvénients, je dirais que c'est ça. Après, inconvénient, ça peut être aussi un travail en horaire décalé. Quand on travaille avec les ados, on finit deux soirs dans la semaine à 22h et on travaille le samedi. Ça, c'est quelque chose qui peut déranger certains, de travailler en horaire un petit peu décalé. On travaille moins les matins, plutôt en fin d'après-midi, quand on est avec les ados. Donc ça, en l'occurrence, pour Anime Orléans, c'est sur 5 structures en particulier. Mais ça, c'est des choses qui sont pas forcément simples. Et puis après, quand on a une vie de famille, quand on travaille par exemple avec les enfants, en fait, on travaille surtout sur les moments où on aurait pu passer du temps avec nos enfants. Donc ça peut être un inconvénient, mais on a le droit à des vacances comme tout le monde, donc ça va quand même. Voilà pour les inconvénients, il y en a sûrement d'autres. Un inconvénient, je réfléchis à ce que mes collègues auraient pu répondre, c'est que c'est quand même un travail un domaine qui se développe de plus en plus. On nous demande de plus en plus de travailler avec vraiment tout type de public, alors que peut-être avant c'était un peu plus restreint. Donc là, vraiment avec différents types de publics, sans avoir forcément de formation particulière avec tous les types de publics. On parle aussi beaucoup d'inclusion avec les personnes porteuses de handicap. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver avec des situations où on manque de formation. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent être un petit peu compliquées à gérer, mais je pense que ça va se développer et que des formations vont aussi se développer et qu'on pourra gommer un petit peu ces difficultés-là après.
Et du coup, vous acceptez des stagiaires pour, par exemple, des bacs pro ou même des stagiaires de 3e, etc.
Oui, on accueille des stagiaires dans différentes formations, dans des formations qui collent évidemment avec ce que nous on fait au quotidien, mais évidemment en bac pro animation, en tant que ce centre d'animation, on est des structures d'accueil privilégiées pour vos formations. On en a déjà accueilli plusieurs depuis que le bac AEPA existe. Des premières et des terminales, je ne suis pas sûre qu'on ait déjà accueilli des secondes. On accueille aussi des stagiaires BAFA, on accueille des personnes aussi en bac pro accueil, en bac pro SPVL, ça n'existe plus, SAPAT. Bien sûr, ça n'existe plus. Maintenant, oui, on accueille aussi SAPAT, service aux personnes et au territoire. Ça, il n'y en a pas ici, c'est plutôt à la MFR. Voilà, on a aussi accueilli des bacs pro, enfin des personnes en BTS économie sociale et familiale, gestion administration. On essaye de pas accueillir puisque c'est pas tout à fait notre domaine, mais on fait parfois des exceptions. On en a une actuellement, mais voilà. Et les stagiaires 3e, ça nous arrive aussi d'en accueillir. C'est très compliqué de trouver un stage de 3e, alors on accueille aussi.
Et qu'est-ce qui est attendu dans la lettre de motivation ?
Bah, on attend dans la lettre de motivation de voir si vous êtes motivé, si vous êtes dynamique, intéressé. Et de toute façon, on sait que si vous débutez dans ce diplôme-là, c'est que forcément vous êtes intéressé par le milieu de l'animation. Donc, on ne se fait pas trop de soucis de vos motivations. Ce qui est important dans la lettre de motivation, c'est d'avoir votre date de stage. C'est bête à dire, mais c'est hyper important.
C'est évident, en fait.
C'est la première chose qu'on regarde, parce qu'en fait, nous, si on accepte des stagiaires, c'est que si on sent qu'on a la capacité de vous accueillir et de bien vous accompagner. Si on a déjà des stagiaires sur la période que vous demandez, on ne peut malheureusement pas vous accepter parce qu'on ne veut pas cumuler les stagiaires pour être sûr de bien pouvoir vous accueillir et bien vous accompagner. Donc on veut essayer de ne pas avoir plus de 2 stagiaires en même temps. Et du coup, les dates, c'est très important pour pouvoir vous répondre.
Et pour avoir un stage, il y a besoin de beaucoup d'expérience ou pas ? C'est, même si on n'a pas beaucoup d'expérience.
A priori, si vous êtes en seconde et que vous demandez un stage, on se doute que vous n'avez pas beaucoup d'expérience. C'est comme en général pour les 3e, on ne leur demande pas de CV. Hein, ce serait un peu compliqué de remplir un CV. Mais du coup, non. Après, l'exercice de faire un CV, je pense que c'est intéressant pour vous. Je ne sais pas si vous le faites en cours.
Mais nous, on nous a demandé des CV pour les stages.
Donc c'est un exercice intéressant. Et puis, la présentation, un petit peu créative, ça montre un peu le domaine dans lequel vous êtes. Mais du coup, non, on se doute que vous n'avez pas d'expérience avant de venir dans nos structures. Et ce n'est pas un souci. Vous êtes justement en stage pour vous faire de l'expérience et découvrir le métier.
Qui organise les activités ?
Globalement, c'est plutôt les personnes qui travaillent sur les structures, mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand je parlais des salariés, mais en plus des salariés, on a aussi des personnes qui sont bénévoles et impliquées dans les structures. Donc du coup, au niveau de l'organisation des activités, ça peut être des bénévoles, ça peut être les salariés et ça peut être aussi... des projets d'habitants, des envies d'habitants de faire des choses particulières. Et donc, dans ce cas, on essaye de construire avec les gens, les habitants.
Est-ce qu'il vous arrive de travailler avec des personnes en situation de handicap ?
Oui. En fait, vraiment, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir accueillir tout le monde, sans distinction. Alors, évidemment, on ne peut malheureusement pas accueillir tout le monde. Il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué de faire des choses en groupe, parce que l'animation, c'est quand même des choses qui se font globalement en groupe. Et du coup, parfois, c'est pas simple. Mais on essaye, en tout cas, on essaye de plus en plus de pouvoir laisser un peu de place pour tout le monde, notamment sur le centre de loisirs. On se retrouve des fois avec des demandes de parents où les enfants ne sont pas acceptés toute la journée à l'école, où en fait, ils sont un peu refusés de partout. Et donc, on essaye de pouvoir les accueillir. Mais avec une organisation un petit peu particulière, plutôt sur les matinées, plutôt sur des moments un peu plus, on va dire, tranquilles, pas trop des sorties. Enfin, ça dépend des... Et on essaye d'avoir vraiment un accompagnement avec les familles pour bien comprendre les besoins des enfants et donc comment on peut y répondre dans le groupe malgré les handicaps.
Merci de nous avoir écoutés. C'était Leïna, Oumou, Mathieu et Lilou. Merci à Madame Durand d'être là et au revoir.
Merci à vous.
Bonjour, je m'appelle Alice, accompagnée de Luna.
Bonjour.
Et Eléa.
Bonjour.
Nous avons interviewé la COP, la conseillère d'orientation et psychologue du lycée professionnel Paul Gauguin. Je vous laisse découvrir cette interview.
Pouvez-vous nous dire les études accessibles après le bac pro AEPA ?
Déjà, bonjour à vous toutes. Les études possibles après le bac pro AEPA sont divers, avec un premier diplôme post-bac qui est le BPJEPS, brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, qui se prépare en une année, soit pour intégrer après un poste d'animateur ou d'animatrice, soit pour passer un concours et devenir éducateur, éducatrice, animateur, animatrice de la fonction publique territoriale ou hospitalière. Sur cette formation, on peut s'orienter plutôt sur un métier d'animateur, un métier en lien avec l'animation sociale ou plutôt aller sur un parcours sportif, notamment avec une spécialité de BPJEPS, loisirs pour tous. Ça, c'est un premier diplôme. Il en existe un autre qui est proposé notamment dans votre lycée, hein, le lycée Gauguin, qui s'appelle une mention complémentaire, qui est un diplôme post-bac qui permet d'accéder à un niveau bac plus 1. Le diplôme proposé au lycée Gauguin tourne autour de la gestion de projet dans le secteur sportif et uniquement dans l'animation sportive. On peut aussi, si on le souhaite, poursuivre ses études pour obtenir un bac plus 2, notamment dans le domaine de l'animation dans des territoires ruraux, avec le BTSA, brevet de technicien supérieur agricole, qui permet de se former à la conception et à la mise en œuvre de projets d'animation en territoire rural. Donc c'est un diplôme qui se passe en 2 années avec un niveau donc Bac plus 2. On peut par la suite poursuivre si on est motivé par un diplôme de niveau Bac plus 3 qui s'appelle, c'est un nouveau diplôme depuis 1 ou 2 ans, le BUT, Bachelor Universitaire de Technologie, pour s'orienter. Alors dans notre académie, il est proposé à l'Université de Tours pour et il permet de poursuivre son parcours d'études vers les spécialités carrière sociale, animation sociale et socioculturelle. On peut aussi, par la suite, avec quelques années d'expérience, se diriger vers des métiers de l'encadrement, encadrement de structures à caractère social, en passant le DEJEPS, donc Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et du Sport. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des différents diplômes et des possibilités donc, qui sont offertes aux jeunes qui sortent du Bac Pro à EPA en termes de poursuite d'études.
Oui. Et du coup, si on veut travailler directement après le Bac Pro, on peut ?
Oui, on peut entrer dans la vie active, mais il me semble préférable de poursuivre à minima par la formation du BPJEPS, qui est le diplôme de premier niveau post-bac.
Quel métier peut-on obtenir ?
Alors, les métiers, ils vont être de deux ordres. Hein. Si on se spécialise plutôt du côté de l'animation sociale, eh bien, on peut devenir animateur ou animatrice socio-culturelle, animateur, animatrice périscolaire pour les jeunes, animateur, animatrice en gérontologie si on s'intéresse plus particulièrement aux personnes âgées, animateur, animatrice sociale. Si on se dirige plutôt vers une mention d'activité sportive, eh bien on devient animateur, animatrice sportive ou éducateur également sportif ou éducatrice sportive pour l'essentiel.
D'après vous, quelles sont les compétences et les qualités pour devenir animateur ?
Alors, de mon point de vue, le terme d'animation dans l'intitulé de votre bac pro est très significatif. Hein. Quand on anime, généralement, on est plutôt à l'aise dans les relations aux autres. Donc, plutôt... à l'aise avec la communication, avec l'accueil aussi, hein, puisque le métier d'animateur consiste à réaliser et à mettre en œuvre des activités d'animation. Mais avant d'animer, on a affaire à un public que l'on accueille. Donc ça me paraît être une étape essentielle qui requiert des qualités en termes d'accueil d'un public. Et puis, je pense qu'il faut être dans une certaine dynamique pour pouvoir justement propulser cet élan aux personnes dont on a la charge, et je pense notamment aux personnes âgées qui sont, de par leur âge ou de par leurs difficultés, forcément moins dynamiques qu'un groupe d'enfants, par exemple, dont on va s'occuper. Voilà, pour l'essentiel, je pense qu'il faut aussi être plutôt positif pour accompagner des personnes qui peuvent être dans des difficultés.
Peut-on devenir animateur sans diplôme ni formation ?
Alors, je crois que j'ai déjà plus ou moins répondu à la question précédemment. Donc, je pense qu'à minima, il faut avoir son BAFA qui peut se préparer pendant les années lycée pour anticiper justement la sortie du lycée. Mais aujourd'hui, les diplômes sont quand même de plus en plus requis. On encourage plutôt les jeunes à poursuivre leurs études après le lycée, en particulier ici le lycée professionnel. Donc au minimum, je pense que voilà, le BAFA et le BPJEPS, c'est aussi une carte intéressante puisque c'est vraiment le diplôme phare qui peut mener par exemple à des activités vraiment en lien avec le sport dans l'univers professionnel. Puisque en dehors, hein, pour ceux et celles qui sont intéressés plutôt par le parcours sportif, en dehors de ce diplôme-là, donc proposé aux jeunes qui sortent de la voie professionnelle, c'est l'université avec les études STAPS pour les jeunes qui ont fait le lycée général. Donc le BPJEPS, c'est vraiment un diplôme phare pour les parcours et d'animation et en particulier sportifs pour les jeunes issus de la voie pro.
Ceux qui sont en voie générale aussi peuvent devenir animateurs ?
Oui, c'est pas fermé.
Quels sont les débouchés du métier ?
Alors, je connais plus particulièrement les débouchés. Alors, je ne vais pas dire du métier parce que votre formation, elle vous permet de vous former à plusieurs métiers et dans deux parcours qui se regroupent, mais qui se distinguent aussi par certains aspects. Donc, le parcours sportif, le parcours animation socio-culturelle. Donc, je vais plutôt m'attacher à notre région pour répondre à ta question. Donc, en ce qui concerne le domaine de l'animation socio-culturelle, le recrutement dans notre région, Centre-Val de Loire, est actuellement en forte hausse. Il y a beaucoup de besoins. On a pu en entendre parler depuis la crise du Covid que les animateurs et animatrices étaient rares alors qu'il y a beaucoup de demandes. Donc le recrutement est plutôt en forte hausse, c'est une période propice pour se former à ce métier-là. Pour aller un petit peu plus loin, et toujours dans notre région, il y a une priorité en termes de contrat de travail, il y a une priorité sur ces métiers-là en CDI. Il y a plus de CDI que de CDD proposés. Par contre, on ne va pas être sur des postes à temps plein. Dans notre région, en moyenne, pour la partie socio-culturelle, animation socio-culturelle, il y a 56% de CDI en temps plein. Ça veut dire que parfois, il faut travailler dans avoir plusieurs employeurs pour avoir un temps plein. D'accord ? Dans notre région, et toujours sur, je vais aller un petit peu plus loin sur la question, dans notre région et toujours sur la partie animation socio-culturelle, les femmes sont majoritaires dans les recrutements avec 72% de femmes qui occupent des postes d'animatrice socioculturelle. D'accord. Du côté de l'animation sportive, à l'inverse, les recrutements sont actuellement plutôt en baisse. Il y a une priorité donnée au CDI également et sur des temps pleins qui sont plus importants que du côté de l'animation sociale avec 72% de temps plein sur les CDI. Et à l'inverse, une majorité d'hommes sur les parcours sportifs puisqu'ils sont 64% à occuper des postes d'animateurs loisirs pour tous ou animation sportive.
La timidité est-elle un défaut ou une qualité dans le métier d'animateur ?
Alors, on va faire le lien avec une réponse que j'ai déjà faite tout à l'heure. Je serais tentée de poser la question en retour. Qu'est-ce que toi, tu en penses ?
Moi, je dirais oui et non, parce que quand on est trop timide, du coup, on collabore pas avec les autres. Et non, parce que... En fait, oui, c'est un défaut.
Alors, défaut, c'est peut-être un grand terme, mais en tous les cas, c'est un aspect qui peut être gênant, effectivement, si on est trop timide au point de ne pas oser se mettre en avant, au point de ne pas oser prendre d'initiative. Là, oui, c'est un aspect qui peut être vraiment gênant et qui peut nous indiquer que on n'est peut-être pas fait pour les métiers de l'animation. Après, il ne faut pas confondre la timidité et le fait de savoir se mettre en réserve, d'avoir une certaine discrétion, puisque on est amené, en travaillant avec des publics qui soient jeunes et moins jeunes, à se voir confier des choses, et on va compter sur nous pour notre capacité à être... à respecter une certaine confidentialité. Donc voilà, on n'est pas sur... c'est pas tant de la timidité qu'une certaine réserve qui peut être utile, effectivement, dans ces métiers qui nous mettent en lien avec les autres.
Okay. Merci, ouais. Madame Bouger, de nous avoir accueillis et de nous avoir répondu à toutes nos questions.
Radio Campus 88.3 FM. Le Moulin à Parole. Restitution d'ateliers radiophoniques et paroles partagées. Le Moulin à Parole.
Thank you.